Bienvenue à tous, mais pour ceux qui ne le connaissent pas, nous avons la joie de rencontrer, de recevoir chez nous aujourd'hui Monseigneur Marc, donc qui est le primat de l'Église orthodoxe celtique, et qui va nous parler aujourd'hui d'un thème, je crois que tout le monde connaît, enfin, ou ressent en tout cas, c'est la souffrance. La souffrance et la paix intérieure. Et en allant le chercher hier à la gare du Midi, j'étais avant à Zaventem, et donc j'avais une heure devant moi pour le prendre. Et j'ai commencé à lire un petit livre de Denis Marquet qui s'appelait « Aimer à l'infini ». Et il disait dans son introduction, il disait que finalement, la souffrance que nous avons tous est la conséquence de notre sensation de ne pas être aimé. Nous aimons tous, et nous pensons tous que nous aimons bien, mais nous avons souvent le sentiment que les autres ne nous aiment pas, que nous ne sommes pas aimés. Et ça génère de la souffrance. Et générant cette souffrance, nous allons alors à ce moment-là essayer de nous protéger, de bâtir des stratégies de défense, d'ériger des murs. Et on sait qu'actuellement, les murs sont très à la mode. Et faisant ça, nous le faisons avec violence. Non pas nécessairement une violence physique, mais ça peut être une violence verbale, une violence du regard, une violence psychologique, une violence du silence. Il y a comme ça toute une série de formes de violence. Et la violence va engendrer de la souffrance supplémentaire. Et tant que nous sommes dans cette spirale « je souffre, donc j'essaye de me défendre, donc je m'introduis de la violence qui va réintroduire de la souffrance supplémentaire », eh bien on ne va pas en sortir. Et donc la meilleure chose, disait-il dans son introduction, c'était finalement de ne pas se défendre. Et je sais que c'est très difficile parce qu'on a souvent l'impression d'avoir été vexé, attaqué, mais... Qu'est-ce que tu vas essayer de nous dire? Il y a un chemin pour justement transcender cette souffrance.
C'est très une introduction. C'était un avant-propos. C'est lui le conférencier. C'est une excellente introduction et il va. Ce n'est que l'introduction. Vous imaginez ce qu'il va nous raconter après? Je viens apprendre des choses, cher père. Tu m'as parlé du livre là, effectivement, c'est très intéressant.
Moi, je ne faisais que la dédicace.
Merci beaucoup parce que ça m'aide. Voilà, je suis très impressionné par cette assemblée, cette sainte assemblée. Comment parler de la souffrance? Voilà, merci pour cette introduction que je n'ai pas enregistrée. J'aurais dû le faire, pardon, mais tu
nous le plombes.
Voilà. Oui, elle pose bien les choses, elle pose notre mal-être face à la souffrance. Alors ça ne signifie pas que nos souffrances, qu'elles soient morales, qu'elles soient physiques ou spirituelles, ça ne signifie pas qu'il ne faut pas chercher à les soulager, bien sûr que si. Et nous avons d'ailleurs le devoir à l'égard d'autrui, du prochain, quel qu'il soit, de veiller sur lui, et de faire en sorte de soulager ses souffrances, quelles qu'elles soient. Maintenant, comme tu l'as fort bien dit, chaque fois que nous vivons une souffrance, si nous sommes obsédés par cette souffrance, eh bien évidemment, cette souffrance ne sera pas utile pour nous s'épanouir spirituellement. Elle ne sera pas utile parce que si on cherche soi-même à tout prix à la guérir, à la dépasser, eh bien, on ne peut pas entrer dans ce processus spirituel que la souffrance peut proposer. Inévitablement, même quand on prend soin de son corps, qu'on prend soin de sa vie, inévitablement, nous connaîtrons tôt ou tard une forme de souffrance. Père Bernard évoquait à l'instant surtout les souffrances que nous avons à vivre les uns avec les autres. Et c'est vrai que vivre les uns avec les autres, c'est compliqué. ceux qui vivent en couple le savent, n'est-ce pas ? Ceux qui vivent en communauté le savent aussi. Et récemment, à la fin du mois d'août et au début du mois de septembre, j'ai conduit une retraite justement sur le thème de la souffrance, du silence et de la souffrance, au monastère de Timadoc avec nos moines et moniales. Et il y avait un moine de là-bas qui disait que quand on vit en couple, on n'est pas 24 heures sur 24 ensemble. C'est-à-dire on va travailler, et quelquefois même il peut y avoir des gens qui sont en voyage, etc. Mais quand on est dans une vie monastique, on est 24 heures sur 24 ensemble. Imaginez, et avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis. Il y a un lien amoureux, évidemment, qui permet une vie en couple. Ce lien amoureux, d'ailleurs, qui vient de Dieu et qui est destiné à se creuser, s'approfondir, ce qui n'est pas toujours le cas, hélas, dans nos itinéraires humains. Dans la vie monastique, ça ne peut être possible que parce qu'il y a une vie spirituelle qui est faite évidemment de prières, comme je l'évoquais tout à l'heure, mais aussi de savoir que toute forme de souffrance peut être un chemin de vie. Alors, comme tu l'as dit, derrière tout ça, effectivement, il y a soif d'être aimé, un besoin immense d'être aimé, mais notre enfermement sur nous-mêmes nous conduit à réagir, à avoir besoin d'aimer en voulant posséder l'amour, en voulant le prendre, en se l'accaparant. Et ça ne peut pas marcher, évidemment, parce que on peut pas, même si on peut, pendant un temps, dans une relation amoureuse, fonctionner comme ça, il y a un moment où ça n'est plus possible, et c'est à ce moment-là que les choses se détériorent. Toute souffrance morale, psychique, qu'elle soit affective, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit, bref, celles qui sont les plus courantes, sont le signe de quelque chose en nous qui se révèle. Manque d'amour, bien sûr, mais surtout elle révèle notre profond égoïsme, elle révèle notre enfermement sur nous-mêmes, elle révèle aussi nos blessures, de toute une existence, et elles sont le signe, tout simplement, quelque chose ne va pas. Alors on a tendance à rejeter la responsabilité sur les autres, et de désigner un adversaire, la cause d'une souffrance. Mais en fait, ce que nos pères nous proposent dans leurs enseignements, c'est d'apprendre à accueillir ces souffrances parce qu'elle a un sens. Mais surtout, avant d'aller plus loin, on accueille ces souffrances pourquoi ? Parce que nous, en tant que chrétiens, il y a quelqu'un qui est venu nous donner un sens à cette souffrance, le Christ. Vous avez remarqué que le Christ vient, s'incarne dans notre humanité, pas seulement notre humanité, mais comme le disait notre saint Père Duc Dual, fondateur de notre monastère à Saint-Valais, disait que le corps du Christ s'étend aussi à l'ensemble de la création, qui elle-même souffre d'être tombée dans la corruption à cause de la chute. Et ce Christ ne vient pas seulement apporter un message, donner des enseignements, donner aussi beaucoup de signes où il y a des miracles avec des guérisons, etc. Mais il accepte de subir l'incompréhension, la haine des hommes et de mourir sur une croix. Le Christ ne subit pas cette croix. Il accepte, il sait qu'il va mourir sur la croix. Il annonce d'ailleurs, quand, au moment de la transfiguration sur le mont Tabor, aux trois apôtres qui l'ont accompagné, qu'il va, c'est la première annonce de la Passion. Et pourtant, il se transfigure, il montre son origine, sa nature divine, Et en même temps, il montre ce que l'humanité doit devenir, ce que le monde, dans sa globalité, doit devenir, transfiguré par la lumière divine. Mais il va subir cette passion comme si sa vie elle-même était un chemin. Et nous nous rendons bien compte que notre vie est un chemin de souffrance. Ce monde perdu dans l'absurdité de ce système consumériste dans lequel nous sommes, ce monde est souffrance. Souffrance de mille et une manières. Souffrance parce qu'on n'a pas de quoi se chauffer, parce qu'on n'a pas de quoi se vêtir, parce qu'on n'a pas de quoi manger. Souffrance parce qu'il y a des persécutions. Souffrance parce qu'il y a des guerres. Souffrance parce que nous subissons la loi du marché dans tel ou tel pays qui produisent de grandes détresses, etc. Souffrance parce que nous ne sommes pas dans un monde d'amour. Et le Christ vient nous restituer, ou plutôt nous montrer un chemin qui va nous faire entrer dans la loi de l'amour. Alors vous allez me dire, mais il se fait laisse crucifier sur la croix pour ça, il meurt, mais il ressuscite. On va laisser de côté le fait que, étant Dieu, évidemment, il est maître de toutes choses et il peut mourir et ressusciter. Mais il nous entraîne à travers cela, à travers un processus de mort et de résurrection. Il n'y a pas de nouvelle vie si nous n'acceptons pas de mourir à nous-mêmes. Qu'est-ce qui se passe dans une souffrance ? C'est une invitation à mourir à nous-mêmes. Une invitation à ne pas se révolter, et comme tu l'as dit dans ton introduction, à ne pas réagir, se justifier, accuser, mais au contraire se dire, et ça il y a la foi qui nous le dit, parce qu'il y a des souffrances qui sont inacceptables, nous subissons des injustices, du moins nous avons le sentiment de subir des injustices. Chaque fois qu'on réagit, c'est qu'on a le sentiment d'avoir été dévalorisé, insulté peut-être, en tout cas agressé. Et ces réactions-là, quelle que soit l'analyse qu'on peut faire au plus profond de nous-mêmes, nos pères nous proposent un chemin simple d'accueillir ce qui est en train de se passer. Le fait que de souffrir signifie que quelque chose en nous a été réveillé, mais ce n'est pas l'autre qui est responsable. L'autre ne fait que par son comportement, qui peut-être n'est pas un comportement charitable, mais il ne fait que réveiller quelque chose en soi qui, à la faveur de cet événement, nous apparaît, nous saute aux yeux. Alors notre réaction humaine, c'est de tout de suite de réagir et de trouver des raisons, de chercher rapidement une guérison, etc. Et pourtant, il y a une... Vous savez, la souffrance, elle peut prendre sens, devenir même joie parfaite, ou elle peut être insupportable. L'idée qu'on se fait de la souffrance, la réaction qu'on aura face à la souffrance, est absolument déterminante. Une souffrance peut devenir insupportable si, pour nous, elle n'a aucun sens. Si il nous apparaît que c'est la faute des circonstances ou c'est la faute de quelqu'un. Et bon, donc, ça, cette souffrance-là, elle ne sert à rien, parce qu'elle nous affaiblit, elle nous démolit, elle nous détruit, mais elle ne peut en aucun cas être un chemin de vie. Pour cela, il faut vraiment que nous nous tournions vers Dieu pour qu'elle prenne un sens. Pourquoi ? Parce que l'origine de toutes nos souffrances, c'est la séparation d'avec Dieu. Lorsque Adam et Ève se sont séparés de Dieu, croyant et pensant que leur propre intelligence, leur propre sagesse, ils pouvaient, dans leur propre sagesse et leur propre intelligence, ils pouvaient s'affranchir de la compagnie de Dieu, pourrait-on dire, eh bien, ils se sont précipités, ils ont précipité l'ensemble de la vie ça veut dire l'ensemble de tout ce qui est, de tout ce qui existe, dans une, à la fois une catastrophe écologique et en même temps une catastrophe spirituelle. Le péché est entré dans le cœur de l'homme et la souffrance est entrée dans le cœur de l'homme, c'est ce que nous dit les premiers chapitres de la Genèse. Tant qu'on n'a pas retrouvé ce lien avec Dieu, nous serons souffrants. Tant que nous n'aurons pas retrouvé cette communion et cette participation à la vie divine, nous serons souffrants. Alors, il y a différents types de souffrances. Je laisse de côté la souffrance des mystiques, qui devient compassion, qui s'associe à la souffrance de Christ pour le salut du monde. C'est encore autre chose. On va rester dans ce qui nous concerne, en tout cas en moi, ce qui me concerne, dans cette souffrance qui nous afflige et que nous devons accueillir comme une chance. Et oui, c'est difficile de dire ça quand, par exemple, on apprend qu'une grave maladie, et que cette maladie risque de nous enlever la vie. Et pourtant, ça aussi, lorsque nous permettons à Dieu d'entrer dans notre vie à la faveur d'une souffrance, quelle qu'elle soit, eh bien, tout ce que nous vivons prend sens et devient mystérieusement chemin de vie, chemin de rédemption, sanctification, renaissance à la vie nouvelle que nous avons tous reçue dans le baptême. D'un point de vue rationnel, c'est absurde. Mais nous sommes là, évidemment, dans une vision qui est celle de la foi. Donc, dans un premier temps, c'est plus facile si nous sommes hommes ou femmes de prière, c'est plus facile si les offices que nous chantons, que nous récitons, nous le faisons avec le conseil que je vous ai donné. Il y a là une préparation à cette intériorité. Au moment où la souffrance nous visite, eh bien de nous tourner vers le Seigneur. Accueillir cette souffrance, ça ne signifie pas de dire « Ah, chouette, je suis en train de souffrir, merci Seigneur, tu peux m'en ajouter, je suis content comme tout ». Non, surtout pas, parce que là, il risquerait d'avoir un comportement pathologique. Non, il s'agit de « Elle est là, on ne peut pas la nier ». Alors, on a le droit de se soigner. Je dirais, on a le droit de se faire soigner. Je donne une nuance. Saint François, dans ses admonitions à ses frères, disait que le frère qui est malade, eh bien, les frères doivent se laisser soigner par ses frères qui vont s'occuper de lui. Mais lui n'a pas à se préoccuper de savoir comment va évoluer sa maladie. Il s'abandonne entre les mains de Dieu, sachant que Dieu sait exactement ce qu'il est en train de vivre, sachant que Dieu est totalement présent à sa vie, sachant que Dieu peut lui donnera tout ce dont il a besoin pour guérir ou pas. Mais de faire en sorte que ce qu'il est en train de vivre, soit profitable. J'ai fait un lapsus en parlant au lieu de vivre, j'ai dit vide. Oui, faire le vide de soi, le vide de ses inquiétudes, le vide de ses angoisses, c'est ça le plus difficile. Dans la souffrance, il y a forcément l'angoisse, il y a forcément la peur, ou alors la colère. Vous connaissez ces cinq phases dans lesquelles, qui ont été identifiées lorsque nous sommes face à une épreuve. La première réaction, c'est le déni, l'incompréhension. C'est pas possible, c'est ce qui vient de m'arriver, ça n'arrive aux autres, mais ça ne peut pas m'arriver à moi. Il y a une sorte de stupeur qui fait qu'on n'est pas en mesure d'accepter ce qui se passe. Après, il y a une sorte de réaction de colère. C'est la réaction à l'égard des autres, c'est la réaction à l'égard de la vie, bref, à l'égard de Dieu aussi. Une force de révolte. Et puis, comme de toute façon, ça ne peut pas, ces comportements ne peuvent rien changer, on essaye de marchander. C'est-à-dire, bon, d'accord, je veux bien être malade, mais il faut que je guérisse, il faut que ça s'arrange, il faut que je trouve un compromis. Mais tout ceci ne sont que des calculs où on essaye de reculer l'échéance, peut-être de l'inévitable, mais on n'est pas dans un accueil, on n'est pas dans une acceptation. Et Comme tout ça ne fonctionne pas, on tombe dans la dépression. C'est-à-dire qu'à certains moments, eh bien, on est effondré, brisé. Et c'est à ce moment-là que, où on pense au suicide, avec le problème aujourd'hui, une des grandes questions, c'est l'euthanasie. Quelqu'un qui n'a pas d'espérance face, quand il est dans la souffrance, et dans une souffrance qui est vue comme absolument insupportable et indigne de l'état humain, eh bien, on prend la solution de l'euthanasie. Évidemment, quand on est croyant et qu'on donne sens à... Quand je parle de l'euthanasie, c'est un acte volontaire de mettre fin à une vie. Hein. Je ne parle pas des soins et aussi des antalgiques nécessaires pour soulager une souffrance en fin de vie, comme dans les unités de soins palliatifs. Mais lorsqu'on vit ça dans la foi, c'est tout à fait différent. Parce que la souffrance est le signe de la séparation d'avec Dieu. Et il nous faut retrouver ce lien perdu. Puisque nous sommes en état d'échec, tant que tout va bien, etc., que, eh bien, on peut avoir la foi, mais bon, c'est une foi qui reste superficielle. C'est quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes là, au pied du mur, si je puis dire, quand je suis dans un cul-de-sac, contraint d'accepter des choses qui peuvent paraître inacceptables. Je me tourne vers Dieu. Seigneur, aie pitié de moi, pauvre pécheur. Et je vous parlais d'accueil parce qu'on n'est pas en mesure d'accepter une souffrance. On n'est pas en mesure d'accepter une épreuve. On n'est pas en mesure d'accepter de voir le monde s'écrouler, s'effondrer. La disparition d'un être cher, une séparation affective douloureuse, une maladie grave, un enfant qui se perd dans la drogue ou autre, etc. Il y en a des souffrances. Ou le constat de ses propres addictions dont on ne peut pas se débarrasser et qui nous afflige, qui nous tourmente, etc. Et là, simplement se dire, je ne peux rien changer, je ne peux pas me guérir tout seul. Même si, encore une fois, mon entourage me donnera, essaiera de me soulager, essaiera de m'aider, ce qui est très important d'ailleurs. Mais personnellement, il y a cet acte qu'il faut faire, qui est à l'origine de toute rupture, de toute souffrance, de tout désordre, de toute violence, c'est de retourner vers Dieu, ce lien perdu il y a très longtemps dans l'histoire de l'humanité et du monde. Ça suppose obliger ses réactions naturelles à se taire, ou du moins à se mettre en sourdine, parce que les faire taire, c'est une autre paire de manches, ça aussi, on n'en a pas la capacité, les obliger à se taire, et de se tourner humblement vers le Seigneur. « Seigneur, je me tourne vers toi, éclaire-moi, guide-moi. » Et dans ce cœur à cœur qu'il faudra faire souvent, refaire inlassablement, quelque chose de ce lien, de cette synergie retrouvée, va commencer à agir en nous. S'il y a de la lumière ici, c'est que deux fils ont été mis en lien, en contact, avec évidemment une lampe qui va donner cette lumière, mais c'est un petit peu comme ça que ça se passe. Lorsque ce lien volontaire que nous retrouvons avec Dieu, favorisé justement parce que nous sommes dans un état de détresse, quelque chose de l'amour divin va commencer à agir en nous. Et la première chose qui va se passer, c'est retrouver un état de paix. Comment peut-on trouver un état de paix alors que tout ce qui nous paraît, tout ce que nous sommes en train de vivre, nous paraît être un désastre? C'est ça qui est mystérieux, c'est qu'effectivement, nous nous bâtissons notre vie sur des choses qui sont bien calibrées, que nous croyons comme étant justes, comme étant parfaites, etc., et comme... Voilà, mais en même temps, elles sont souvent, sans nous rendre compte, un refuge. Eh bien, lorsqu'elles nous sont retirées, nous nous retrouvons dans une espèce de vide sidéral qui nous plonge justement dans une grande souffrance. Et c'est là que nous nous rendons compte que notre vie n'est pas basée sur Dieu. Que Dieu n'est pas aussi présent qu'on le croyait. que cette intériorité que l'on cherche à travers nos offices, à travers la méditation, à travers la réception des sacrements, etc., n'est pas aussi profond et aussi vrai que je le crois. C'est pour ça que la souffrance est une nécessité. Pardonnez-moi de dire ça, mais vous savez tous, et vous avez ici un certain âge, pour certains d'entre nous plus que les autres, à commencer par moi, eh bien, au terme d'une vie, on se dit, mon Dieu, j'aurais pas imaginé mon existence comme ça. J'aurais pas imaginé les souffrances qui m'ont affligé. J'aurais pas imaginé connaître toutes ces épreuves. Mais si nous comprenons le sens de ces épreuves, alors elles nous transforment, elles nous transfigurent. Elles nous ouvrent à la vraie vie. Elles nous donnent un regard complètement différent sur les êtres et les choses. Alors notre cœur commence à vivre de plus en plus dans cette présente, aimante, consolante, guérissante, qu'est justement ce Seigneur qui est venu à nous et qui a accepté de vivre avec nous toutes nos souffrances. Parce que là aussi, c'est un point important. Dans cette première intervention que je fais ce matin, je généralise un peu, après on verra plus dans les détails. Mais il y a aussi cette réalité-là, Dieu est venu à nous, voyant qu'on n'allait pas vers lui, il est venu à nous. Il est descendu dans nos enfers. Il est descendu dans les profondeurs de notre humanité en l'épousant, en la faisant sienne. Ce Christ qui est mort, ressuscité, accepte malgré tout, même s'il est descendu aux enfers, d'y rester. Même s'il est mort sur la croix, d'y rester. Mais il est aussi ressuscité. Pour que en lui, nous puissions aussi reconnaître dans quel enfer nous sommes, de nous laisser sortir des enfers avec lui, de aussi monter sur la croix avec lui, afin de ressusciter avec lui. Et il nous offre là un chemin royal. Ce temps de l'Avent que nous sommes en train de vivre, nous avons institué cette année à Saint-Dolay le rite des couronnes de l'Avent. Vous savez que les jours raccourcissent. Enfin, c'est une très belle journée. Vous avez remarqué, je vous ai amené le soleil. Ne me remerciez pas, c'est naturel. Et donc, merci Seigneur. Et donc, mais c'est, les jours raccourcissent et nous enfonçons un peu plus dans la nuit. Qu'est-ce qui se passe dans la douleur si ce n'est soudain être plongé dans la nuit? Il nous faut accepter de voir cette nuit, de demeurer dans cette nuit. Il nous faut accepter de recevoir cette leçon de vie qui nous place dans une réalité spirituelle. Avant, je vivais dans beaucoup d'illusions, voilà que la douleur me ramène à une réalité. Je ne l'ai pas cherchée, mais elle est arrivée. Et là, je suis dans mes enfers. Et au lieu de me débattre et d'accuser, de m'ouvrir à cette réalité, mais de m'ouvrir avec la foi, parce que sinon ça devient, c'est impossible. C'est impossible à vivre. Et parfois, cet enfer, il est profond. Il nous conduit dans une nuit obscure. Mais le Seigneur sait très bien ce que nous pouvons vivre et quelles sont nos capacités, puisque je vous ai dit qu'il était présent en tout, absolument en tout. Mais ça, la plupart du temps, on ne se rend pas compte. Et c'est là qu'on le rencontre. Comme dit Saint Jean, la lumière brille dans les ténèbres. Nous rencontrons le Seigneur dans notre nuit intérieure que révèle la souffrance. Et il nous sort de cet enfer. Alors, ce temps de l'Avent, je vous parlais des couronnes de la couronne de l'Avent, elle a 6 bougies. Et chaque jour, nous avons un petit office destiné aux familles, évidemment. Elles allument ça au moment de vêpres, au moment où la nuit tombe. Et on allume première semaine une bougie, deuxième semaine deux bougies, troisième semaine trois bougies, etc., jusqu'à ce que les 6 semaines de l'Avent puissent être allumées. Mais à mesure que nous descendons dans nos enfers, la lumière grandit. C'est mystérieux, ça. À mesure que nous acceptons la souffrance, la lumière grandit. Elle grandit, si je ne suis pas obsédé par cette souffrance. Elle grandit si je ne me révolte pas contre cette souffrance. Elle grandit si je me mets dans un état d'acceptation où je dis « Seigneur, que ta volonté soit faite ». Et sa volonté soit faite, ça ne veut pas dire « La souffrance vient à toi, plus tu vas souffrir, mieux ce sera pour toi ». Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Mon Dieu, moins on souffre quand même, mieux c'est. Mais puisqu'elle est à nous, eh bien, faisons en sorte qu'elle nous aide à nous ouvrir. Donc il y a ce processus, et ce processus de l'avant, cette descente vers dans les ténèbres, nous allons à la rencontre de cet enfant Dieu qui va naître à Noël. Comment rencontrer véritablement le Christ d'une manière profonde, réelle, intérieure, si je ne descends pas dans la nuit de ma propre nature? C'est pas possible. C'est bien là que le Seigneur naît dans une grotte, c'est la grotte de notre cœur. C'est la grotte de nos propres ténèbres. C'est là que soudain se révèle. Mais il nous faut pourtant, pour ça, nous laisser guider. Vous avez remarqué, dans la nature, tout se dépouille. Les arbres semblent mourir. La sève se retire. Il y a une sorte de dépouillement. Et nous, n'oublions pas une chose, c'est que dans notre propre corps, nous vivons les mêmes rythmes. C'est pour ça que le jeûne de l'Avent est important. Nous aussi, nous devons nous dépouiller de nos mauvaises habitudes alimentaires, si c'est le cas, de nos excès, de nos mauvais, on va dire, de nos comportements qui sont souvent superficiels, de nous intérioriser en nous tournant vers le Seigneur. Et inévitablement, si on fait un vrai jeûne, c'est-à-dire vraiment se tourner vers le Seigneur en éliminant tout ce qui vient nous empêcher d'être vraiment dans ce cœur à cœur avec lui, eh bien, il va y avoir forcément révélation de ce qui fait obstacle, parce que notre nature, elle réagit. Et elle va réagir d'une multitude de façons, même, peut-être même d'une manière psychosomatique, avec des mots qui apparaissent, mais qui sont aussi naturels dans cette purification que nous entreprenons lorsque nous jeûnons, avec toutes les facettes que suppose le jeûne, un jeûne sur le plan psychique, sur le plan physique, sur tout ce qui, dans notre nature, encore une fois, nous conduit à nous ouvrir à Dieu et nous oblige à lâcher des choses qui nous empêchent vraiment cette pleine rencontre avec Dieu. Alors, inévitablement, des souffrances, quelle que soit leur forme, vont apparaître. Alors ça, je vous parle là de ces souffrances qui sont le fruit d'une ascèse. D'ailleurs, la méditation. Nos pères nous disent que lorsqu'on a vraiment dans la prière de Jésus ou autre, lorsque vraiment nous sommes dans le cœur à cœur, c'est surtout là que nous est révélé ce que nous sommes. La vie aussi, bien sûr, dans la vie, parce qu'on parle des souffrances, notre façon de vivre avec les autres, mais peut-être que les plus grandes lumières qui nous seront données sur nos déviances, nos péchés, on le trouvera dans cette profondeur spirituelle. Alors, il faut que tu me dises, là, au niveau du temps aussi, comment ça fonctionne, parce que déjà, dépassé. ...10h50, pause. Ah, j'ai encore 10 minutes. Il faut que j'obéisse. Donc ce temps de l'Avent, cette méditation sur la souffrance, on doit la réinsérer dans ce cycle cosmique. Notre corps doit se purifier, doit être émondé. Notre nature psychique, avec toutes ses composantes, doit elle aussi se purifier. Mais elle ne se purifie pas seulement par des méthodes extérieures. Il faut l'intervention de la grâce, il faut se tourner vers le Seigneur pour que sa grâce vienne agir en nous, révéler ce que nous devons comprendre, parce que rien ne se fait vraiment automatiquement. Vous avez remarqué, le Seigneur, dans les évangiles, tous ceux qui se tournent vers lui, il leur pose la question, qu'est-ce que tu veux? En fait, il faut nommer sa maladie, nommer sa souffrance. Et c'est seulement parce que, alors je veux que tu me rendes la vue, voilà. Et il y a là, à ce moment-là, le miracle de la guérison. Vous savez, dans le cycle ancien, l'ancien cycle liturgique, dans la tradition occidentale, catholique surtout, avant Vatican II, il y avait la Saint-Raphaël qu'on célébrait le 24 octobre. Nous célébrons toujours la Saint-Raphaël le 24 octobre. Vous aussi, non? Bon, c'est bien. Pourquoi le 24 octobre? Vous connaissez l'histoire de l'archange Raphaël?
Tobie.
Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire de Tobie?
Il y a beaucoup de morts. Hein.
Oui. Ah oui, puis il les enterrait, les morts, et donc ça lui valait pas mal de soucis. Mais l'histoire, c'est que il faut qu'il envoie son fils, qui s'appelle Tobie aussi, dans sa parenté pour aller chercher une épouse, mais il y a une histoire aussi d'argent. Mais c'est un voyage quand même qui est difficile. Tobie père est aveugle. Et là apparaît, ses prières sont exaucées, un jeune homme qui a l'air de connaître le chemin et qui se propose d'accompagner. C'est l'archange Raphaël. Il accompagne Tobie fils. Et qui trouve une épouse, mais qui un démon qui a déjà 6 maris ou 7 maris, je ne sais plus, qui à chaque fois meurt la nuit de noces. Et Tobie est amoureux de cette. Il faut absolument faire quelque chose. Alors que l'ange Raphaël, bref, exorcise ce démon et tout est bien qui finit bien. Tobie revient avec cette épouse qui est forcément jolie et charmante et revient dans la famille. Et il guérit la cécité de Tobie, père. Vous vous souvenez quel âge il avait, Tobie, père? C'est important. Il avait 62 ans. 62 ans.
62.
Oui. Et 62 ans, la Saint-Raphaël, c'est 62 jours avant Noël. Vous direz, c'est fait exprès. Parce que ça signifie que nous avons besoin, comme dans l'histoire de Tobie, d'être guidés par la grâce, par les anges, par notre ange. Parce que nous sommes aveugles, parce que nous ne savons pas. Et dans la souffrance que j'évoquais tout à l'heure, nous sommes aveugles. On ne comprend pas pourquoi on vit des choses comme ça. Et nos réactions premières, parce que c'est inévitable, c'est humain, c'est d'entrer dans des réactions parfois violentes même. Et nous ne voyons pas le sens de cette souffrance. Et nous avons besoin d'être guidés, d'être éclairés, dans ce cheminement intérieur. Nous allons vers une guérison spirituelle. Ce temps de l'Avent doit nous ouvrir les yeux. Ce temps de l'Avent est forcément un temps où nous allons accepter un regard différent sur nous. Alors le Seigneur sait très bien ce qu'on peut supporter, je vous l'ai dit tout à l'heure. Il sait très bien ce que nous pouvons vivre. Et donc, il ne va pas nous révéler tout ce que nous avons à transformer, ça serait insupportable. Vous savez, c'est le curé d'Ars et d'autres saints qui demandent au Seigneur, « Seigneur, montre-moi mes péchés. » Le curé d'Ars, qui est déjà un saint, où les foules accourent vers lui pour recevoir une grâce divine. Et le curé d'Ars, à ce moment-là, quand le Seigneur montre ses péchés, c'est tellement insupportable qu'il supplie que ça s'arrête. Alors nous, on ne va pas demander ça, on va laisser venir les choses petit à petit pour que nous soyons en mesure de, au fur et à mesure, de recevoir les grâces qui correspondent. C'est la réalité humaine. Parce que nous n'avons pas conscience de les ténèbres abyssales qui nous habitent et que nous partageons avec l'ensemble de ce monde. Dans ce temps de l'Avent, au fur et à mesure qu'on allume les lumières et que les prières nous invitent à nous préparer à cette rencontre avec le Seigneur, il s'agit là d'une véritable rencontre. C'est une réalité. Le fait d'être plongé dans les ténèbres, d'être aveugle, de souffrir de ces ténèbres, de souffrir de ce que nous sommes, parce que nous ne sommes pas en capacité de rencontrer l'amour au sens pur du terme. C'est impossible. Notre nature humaine ne pourrait pas supporter la lumière. Elle nous détruirait. Il nous faut que peu à peu, nous puissions... C'est pas comme les apôtres, au moment du mont Tabor, voient la lumière divine. D'ailleurs, vous connaissez l'icône, ils sont précipités sur le sol, tellement c'est une vision qui est, pour eux, écrasante. Eh bien, il faut que peu à peu, cette lumière se révèle en nous, que l'amour divin se révèle en nous, à travers le Seigneur Jésus, avec lui, en lui, dans cette grâce de l'Esprit Saint qu'il nous donne pour que nous puissions cheminer peu à peu, étape par étape, dans cette transformation. Et c'est pour ça que la souffrance nous est nécessaire, parce que sans elle, on ne verrait pas, on ne pourrait pas voir ce qui en nous fait obstacle à ce processus de transfiguration de notre vie. La rencontre avec le Seigneur au moment de Noël, c'est une première étape. D'une rencontre où nous allons découvrir l'enfant Dieu. C'est le même mystère qu'on trouve, vous savez, dans la galette des rois, que nous célébrons au moment de l'épiphanie. Tout ça, c'était une seule et même fête autrefois, vous le savez. Et on met une fève, symbole de la lumière, dans une galette qui est couleur de soleil, de lumière, cuite au four, qui ressemble à un soleil, à l'intérieur duquel est cachée cette fève qui peut-être vient du mot Phébus, qui signifie lumière. Et celui qui reçoit cette fève quand on tire cette galette devient roi. Mais il devient roi parce que, non pas qu'il est au-dessus des autres, mais parce que il a cette grâce où il peut régner sur sa nature, du moins pas en tant que tel, mais en communion avec... Il a maîtrisé sa nature. Il n'est plus esclave de cette nature qui nous tyrannise. Il est affranchi de ses passions et de ses déviances. Et du moins, il est en mesure, non pas à partir de ce moment-là, parce que dans le cycle liturgique, c'est tout un processus spirituel, en mesure de suivre le Christ, se dire, Seigneur, je veux accomplir désormais toute ta volonté. Des prières magnifiques, hein, qui sont une véritable consécration de chaque instant, où on se laisse guider par la volonté de Dieu pour que s'accomplisse en nous parfaitement cette volonté. Et donc, il va nous entraîner dans cette montée vers sa passion, où nous allons véritablement mourir à nous-mêmes et ressusciter avec lui. Mais il faut d'abord qu'il y ait cette rencontre intérieure. Il faut qu'il y ait vraiment cette rencontre qui va être déterminante, où nous allons décider, une fois pour toutes, peut-être pourrait-on dire, de s'attacher à lui et de ne plus revenir en arrière. Souvent, notre vie chrétienne, il y a des moments où nous sentons la grâce agir en nous, il y a des moments où nous sentons que nous sommes en phase, si on peut dire, avec cette grâce divine, mais le plus souvent, on vit dans une espèce de torpeur spirituelle. Et le réveil, lorsqu'il y a cette rencontre avec le Seigneur, c'est vraiment un moment de conversion profonde. Un moment de conversion où, lorsque se révèle à nous notre péché, et ça, ce n'est possible que par une grâce divine, eh bien, soudain, nous sommes saisis par une conscience spirituelle complètement nouvelle, où nous décidons, nous sommes en capacité de décider de vraiment suivre le Christ. Alors, voilà, on est arrivé au terme de ces... on va faire une petite pause maintenant. Tout ce que je vous ai dit là, qui sont un peu dit en vrac, je voudrais tout à l'heure, après la pause, que, à travers vos questions, qu'on puisse un peu affiner ce sens de la souffrance et la rendre, lui donner vraiment un sens. C'est important parce que chacun... à ses souffrances, chacun a son itinéraire, chacun a son chemin de vie. Je ne vous demande pas de faire une confession publique en disant « Ah oui, je souffre de ça », mais de quand même, à travers vos questions, que nous puissions vraiment éclairer, donner sens à cela, et puis, à partir, je l'espère, de ces échanges, que nous puissions vraiment découvrir que le Seigneur est là. Et que dans une retraite comme celle-ci, une retraite d'une journée, eh bien, on peut... il peut y avoir vraiment une rencontre profonde, extraordinaire. Un moment... La conversion, c'est pas seulement ce moment où je découvre que je suis pécheur pour telle ou telle raison, mais ça peut être simplement ce moment où « Ah, mais Seigneur, tu es là, et voilà que tu touches mon cœur, et voilà que tu me visites, et voilà que tu m'appelles. Mais je veux m'attacher à toi, Seigneur. Montre-moi ce qui fait obstacle, parce qu'il y a des moments de grâce qui nous sont donnés et qui sont vraiment le fruit de la tendresse de Dieu, qui ne sont pas forcément un aboutissement de tout un processus, on va dire, ascétique. C'est, le Seigneur me visite et me dit, voilà, combien je t'aime, mon fils ou ma fille, combien je t'aime et combien je voudrais te partager mon amour. Et je voudrais te montrer tout ce qui en toi empêche de partager cet amour. Certes, il y aura de la souffrance, mais je vais te montrer que la souffrance peut être non seulement chemin de vie, mais dans cette réalité de l'amour peut devenir joie parfaite. On parlera tout à l'heure de pourquoi, comment, plus précisément, une souffrance peut devenir joie parfaite. Merci pour cette écoute.